d'Aristote, suite. Le neuvième cours n'a pas été enregistré. Dixième cours.
Vous avez déjà vu que c'est assez difficile, et nous verrons de plus en plus que c'est difficile. Alors, je vous demande un petit effort d'intelligence à l'égard de ce livre que je crois quand même très important, sorte que cet effort qu'il faut faire vous permet de pénétrer plus avant dans la philosophie d'Aristote. C'est sûrement le mot Zeta, le mot Theta, qui doit nous aider à pénétrer dans cette philosophie. Alors, dans la mesure du possible, autant que réfléchissez avant sur le mot Zeta, je crois qu'il est bon d'avoir lu une fois, parce qu'une simple lecture ne suffit pas, et c'est un avantage de relire plusieurs fois dessus. Alors, je ne reviens pas sur ce que vous avez dit précédemment sur le livre Zeta, nous entrons tout de suite, si vous voulez, dans le chapitre 3, j'avais commencé, mais je le reprends, pour montrer l'unité de ce chapitre 3 et en même temps les difficultés qui se présentent. Donc, après avoir montré les opinions des philosophes sur l'ousia, Aristote va commencer de montrer le lien qui existe entre le point de vue du sujet et le ousia. Pratiquement, on peut dire que le chapitre 3 se situe dans cette perspective-là. Voir exactement le lien qui existe entre le point de vue du sujet, upo kaimena, le taux upo kaimena, et l'ousia. Donc, le point de vue du sujet, le upo kaimena, ça traduisait ça, n'est pas ce qui est situé au-dessous. On va reprendre le point de vue de Kaitan, ce qui vit devant nous, et donc ce qui est à la racine, ce qui est en dessous, le sous-paré latin traduira bien. Vous voyez que le mot substance, donc qui traduit ousia, traduit le point de vue de la substance dans son lien avec le point de vue du sujet. Donc, upokaimenon, ce qui est situé au-dessous, alors on dira de façon habituelle le point de vue du sujet, mais comprenez l'origine, parce que sujet, tout de suite, c'est quelque chose de tellement sujet qu'on voit très bien ce que c'est. Le sujet logique, le sujet de la philosophie de la nature, dans la philosophie de la nature, ce qui est à la racine de tout mouvement, ce qui résiste au mouvement, c'est tout ça, toujours ce point de vue-là. Je crois qu'il faut prendre tôt upokaimenon, donc ce qui est situé au-dessous, ce qui gît devant nous. Vous voyez, dans le banc, page 458. Alors, dans le chapitre 3, Aristote rappelle la substance est dite de fait de quatre manières principales, parmi les multiples manières. Donc, ici, il entre tout de suite dans le point de vue des distinctions qu'il considère comme essentielles. La substance de chaque chose semble être, en effet, le taux qui est ménage, le taux catholou, le taux ménage et le taux hypocaïnénage. Donc le taux qui est ménage, nous l'avons vu la dernière fois, nous y reviendrons, la cuidité, qu'on traduit cuidité, le taux qui est ménage. Le taux catholou, l'universel, le taux ménage, le genre et le sujet. Alors on va regarder tout de suite le point de vue du sujet. Le sujet est selon lequel les autres sont dits, et lui-même jamais selon un autre. Voilà la définition du sujet. Donc le sujet est selon lequel les autres sont dits, vous voyez que le sujet est plus là, selon la définition. On prend le sujet en fonction des autres qui sont dits de lui. Et lui n'est jamais dit de l'autre. Autrement dit, le sujet, c'est ce qui n'est relatif à rien d'autre, et dont les autres sont relatifs. C'est ça le point de vue du sujet. On peut dire que c'est un certain absolu. Il y a quand même une idée d'absolu dans le sujet. Ce qui n'est relatif à rien d'autre. La P selon lequel les autres sont dits et lui-même jamais selon un autre. Il faut en premier lieu le regarder, puisqu'il semble avant tout que le sujet premier est l'ousia. Donc tout de suite, Aristote prend une donnée commune. Une donnée commune qui est une donnée qu'Aristote a déjà donnée du reste en logique, nous avons prévu tout de suite, que de fait, le sujet semble prédit à l'ousia.
le sujet premier c'est lui. Le sujet premier égale lui. Voyez ce qu'Aristote dit dans les catégories, si vous vous souvenez. Il dit la substance, l'ousia, au sens principal, le plus principal, le sens premier du terme, c'est ce qui n'est ni affirmé d'un sujet, ni dans un sujet. Et là, on voit la parenté entre les deux. C'est pas la même chose, c'est pas la même affirmation. Ici, il reprend le point de vue du sujet comme sujet. Alors que dans les catégories, il prend le point de vue de l'ousia, jouant le rôle de sujet. Donc il y a deux perspectives différentes, on voit bien la même affirmation. Alors, pour saisir le lien qui existe entre l'ousia et le sujet, Aristote rappelle. Or, sujet, d'une certaine manière, est dit la matière. D'une autre manière, la forme. D'une autre manière, le propos. Donc c'est une division qui reviendra de la côté du chapitre. Une division qui est particulière, parce qu'à première vue, on ne voit pas très bien comment la forme peut être sujet, mais ce qui montre bien qu'il ne prend pas sujet, il ne prend la pointe logique. Et il prend là sujet de façon beaucoup plus radicale, comme d'une certaine manière un absolu. Ce qui est premier. Point de vue sujet premier. C'est très dit sujet premier. Donc le sujet, d'une certaine manière, est dit la matière, elle est la forme. Le sujet est dit forme, le sujet est dit composé. Et immédiatement, il nous donne cette explication. Le sujet est comme les reins. Le sujet est comme la schéma terre idea, c'est-à-dire c'est la configuration du statut, la forme, où le sujet c'est le tout, le summum. De sorte que, donc après avoir énuméré que le sujet se dit de diverses manières, que le sujet se dit de ces trois façons, matière, forme, composée. Il ne dit pas simplement la cité, il n'a pas de lien entre les deux. Simple affirmation, c'est là la difficulté du problème. C'est pas une simple affirmation. Le sujet se dit de trois manières différentes. Donc, au fond, autrement dit, le sujet est une notion analogique, si vous voulez. Nous dirions ça dans une certaine terminologie. Donc, c'est le sujet se dit de diverses manières. Il se dit selon des formes différentes, des manières différentes. Le sujet peut s'entendre comme la matière, il peut s'entendre comme la forme, il peut s'entendre comme le composé. De sorte que si l'aïdon, si la forme est avant la matière, antérieure à la matière, si elle est malone homme, elle est plus être, elle sera aussi avant le composé. On compare le point de vue de la forme et du composé. On voit que la forme est antérieure à la matière, et parce qu'elle est antérieure à la matière, la forme est antérieure au composé. Alors on s'attendrait à la conclusion, donc la substance et sujet est avant tout forme. Hop, je prends un point de vue logique. Simplement l'organisation logique. Et là on voit que justement, il y a un peu un perfidard au début du chapitre 3. C'est pas comme on dit tout de voir au début du chapitre 3. Parce que la division est assez simple. On prend le sujet forme, matière ou matière, forme composée. On prend ensuite la qualité particulière de la forme, et on dit que la forme est avant la matière. Elle est plus être. La non-forme, donc elle a une antériorité à l'égard de la matière, et donc elle a une antériorité à l'égard du sujet. Donc au fond, c'est la forme qui est l'absolu. Et Aristote conclut, voilà, tu faut, donc d'une manière un peu grossière, d'une manière un peu simple, ce qu'est la substance. Vous voyez, voilà, donc, n'interroge pas plus. Puisqu'elle est ce qui n'est pas selon un sujet, mais les autres selon elle. Il ne faut pas s'arrêter à cela, c'est insuffisant. Cela n'est pas évident. Et de plus, la matière devient substance. Voilà le début du chapitre 3. Alors vous voyez que c'est assez chaotique. Vous pouvez conclure pas mal de choses, c'est-à-dire maintenant. Je prends le texte tel qu'il est, parce qu'il faut d'abord regarder le texte tel qu'il est. Il faut ensuite essayer, non pas de recomposer le texte, je crois qu'il ne faut pas vouloir recomposer le texte, il faut tout simplement voir que peut-être qu'il y a là une affirmation qui va commander tout le reste. Voyez que si je prends la logique interne de ce début, le premier moment de ce chapitre 3, c'est encore une fois important, puisque c'est le problème de la substance sujet. On aurait envie de dire ceci, si le sujet est ce selon lequel les autres sont, c'est-à-dire ce qui est premier. N'oublions pas l'intuition première de tout ce livre Zeta. L'intuition première qui commande toutes les analyses.
conclusion première, c'est que le lit, c'est que l'oubia est pour Aristote l'être pris en premier. Autrement dit, l'oubia, c'est quelque chose de premier. Ça, dans une vision intuitive, et si on se demande ensuite, qu'est-ce que c'est que l'oubia? L'intuition dominante des buts de l'état, c'est que la substance, l'oubia, est première. Alors, on peut dire ceci, si le sujet est ce selon lequel les autres sont dits, le sujet est nécessairement quelque chose de premier. Il y a quelque chose d'absolu dans le ton hypoténum. Le sujet implique un certain absolu. Que les autres sont relatifs à lui et le sujet n'est relatif à rien. C'est l'exode qui est première. C'est la matière qui est première. Et c'est le composé des deux. Autrement dit, le sujet peut entendre de l'exode, le sujet peut entendre de la matière, le sujet peut entendre du composé. Trois manières de considérer le sujet. En effet, on peut considérer le sujet sous son droit d'aspect différent. On voit très bien comment on peut considérer le sujet en tant qu'absolu du côté de la détermination, c'est la forme. En tant qu'absolu du côté de la réflexivité, c'est la matière. En tant que celui qui est capable de recevoir les autres, c'est le composé. Donc on voit très bien comment, d'une certaine manière, le sujet peut s'entendre selon ces trois manières différentes. Mais on précise tout de suite, mais l'aïdor, c'est ce qu'il y a de premier, la forme, c'est ce qu'il y a de premier. Alors, on conclurait de cette manière, donc l'oubia et l'exode. Et pourtant, on conclut ceci, donc, d'une manière un peu grossière, du pot, d'une manière rapide, voilà ce qu'est la substance, donc, elle est l'exode, matière composée. Quel est le sujet ? Conclusion à tous les trois. Donc, d'une manière un peu grossière, on peut dire, puisque la substance est sujet, et que le sujet se donne de trois manières, on peut donc conclure de cette manière que la substance, elle est matière, elle dort, elle est composée. Puisque de fait, elle est sujet, et que le sujet se dit de trois manières. Donc, d'une manière un peu grossière, voilà ce qu'est la substance. Puisque elle est ce qui n'est pas selon un sujet, mais les autres selon un. Alors, je crois que c'est la première conclusion. Mais immédiatement, cette conclusion pose un problème. Mais peut-on dire que la substance est matière? Vous voyez, il y a une triple conclusion. Le texte ne le donne pas explicitement, mais je crois qu'on peut le dire. Si je regarde la structure du texte, je peux dire qu'il y a une triple conclusion. Une triple conclusion qui n'est pas une conclusion précise. Vous voyez, nous pourrions dire que ce début du chapitre nous montre que la substance sujet va pouvoir être présenté de trois manières différentes. De facto. Non pas ce qu'est la substance, mais la substance va pouvoir se présenter de trois manières différentes. Pourquoi? Parce que la substance est sujet et que le sujet se donne selon ces trois manières différentes. Donc, tu faut, et je crois que ça veut dire ça, c'est pas du tout ce qu'est la substance, ce n'est pas le qui est-il de la substance, mais c'est simplement la substance va pouvoir se présenter de trois manières. Elle va se présenter sous forme, matière et puis composée. Alors immédiatement, le point de vue de la difficulté va se poser. Si je reste physiquement devant cette affirmation, pouvons-nous dire vraiment que la substance est matière? Alors là, nous entrons vraiment dans le sujet. Il y a une parenté entre la matière et le sujet, on ne peut pas nier. Si j'identifie le titre et sujet, je devrais donc nécessairement dire que les mêmes divisions qui regardent le sujet regardent la substance. Si les mêmes divisions qui regardent le sujet regardent la substance, je dois donc conclure que la substance est matière. Pouvons-nous dire que la substance est matière? Oui, je crois qu'il y a quand même un nouveau point d'interrogation, donc une nouvelle manière d'entrer dans le sujet plus profondément. Autrement, avant d'entrer dans l'explication après, je crois que nous pouvons toujours voir ces deux aspects. La substance va indiquer d'une certaine manière la fonction du sujet. Mais la substance, en ce qu'elle est, le qui est-il la substance, est-il le qui est-il du sujet? Oui, au fond, je crois que tout chapitre 3 est là-dessus. Alors, j'écris ça pour que vous voyez mieux, pour comprendre mieux ce chapitre 3. Je crois que vous voyez, donc, le point de vue du sujet et le point de vue de la substance. La substance est première. Dans l'ordre de l'être. La substance est première dans l'ordre de l'être. Le sujet est premier.
on ne dit pas dans l'ordre de l'être. Et là, le sujet est premier, puisque tout est dit du sujet et que le sujet n'est dit de rien. Donc le sujet possède bien une certaine priorité. Une priorité d'ordre logique au niveau de l'attribution, une priorité dans l'ordre du devenir, puisque de fait, le sujet est ce qui demeure au-delà du mouvement. Donc il y a bien une certaine priorité dans le sujet. Des deux côtés, il y a une priorité. Dès qu'il y a priorité des deux côtés, ça prouve qu'il y a un moment où le sujet et la substance vont se rencontrer. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une certaine similitude entre le sujet et la substance qu'on peut dire que la substance, c'est le sujet. Qu'on peut dire que le qui est-il de la substance, c'est le sujet. Or, ce que nous cherchons, ne l'oublions pas, c'est le qui est-il de la substance. Ce n'est pas le fait qu'il existe une substance, ce n'est pas le fait qu'il existe un sujet, mais c'est le qui est-il de la substance. Qu'est-ce que c'est que la substance? Si vous identifiez le qui est-il de la substance et le sujet, nécessairement, les divisions de la substance seront les divisions du sujet. S'il y a égalité, non pas seulement similitude dans des fonctions, mais s'il y a égalité, si le qui est-il de la substance, c'est le sujet. Nécessairement, les divisions du sujet seront les divisions de la substance. Et c'est un procédé très aristotélicien de voir que quand deux réalités les divisions de l'une sont les divisions de l'autre. C'est toujours le procédé d'Aristote. Il ne faut pas l'oublier. Hein? C'est d'essayer de voir toujours quand deux réalités sont identiques, ils ont même extension. Donc s'ils ont même extension, on va retrouver les divisions de l'un dans les divisions de l'autre. Or, quelles sont les divisions du sujet? Les divisions du sujet, c'est d'une part matière, d'autre part endos, d'autre part composé. Voilà les trois grandes divisions du sujet. Alors ça ne m'explique pas, présupposé que nous sommes suffisamment intelligents pour comprendre ça. Donc, les divisions du sujet, c'est matière, endos, composé. Si les divisions du sujet sont matière, endos et composé, s'il y a identité entre sujet et substance, nécessairement, la substance sera matière. On ne parle pas de ça, nous allons revenir après. Mais c'est ça qui intéresse. S'il y a identité entre substance et matière, si je peux dire que s'il y a identité entre sujet et substance, si je peux dire que le qui est-il de la substance, c'est le sujet, nécessairement les divisions du sujet seront les divisions de la substance. Et par le fait même, je devrais dire, puisque le sujet apparaît comme matière, forme, composée, je devrais dire donc que la substance est matière. Vous voyez, voilà la conclusion, je crois, à laquelle Aristote va vous dire. Alors, on va essayer de voir ce bon moment du chapitre 3. Nous allons essayer de voir comment, d'une certaine manière, il y a une parenté entre matière et substance. Et puis, nous verrons ensuite que cette parenté n'est pas une identification. Nous ne pourrons pas dire que la substance, c'est la matière. Mais il faut d'abord voir qu'il y a comme quelque chose de parallèle entre les deux. Autrement dit, on peut facilement confondre matière et substance, si nous ne faisons pas attention. Deux raisonnements d'Aristote. Je crois qu'il y a deux raisonnements d'Aristote. Premièrement, par mode d'impossibilité. Si elle n'est pas substance elle-même, qui le sera? Donc si la matière n'est pas substance, qu'est-ce qui sera substance? Parce que justement, la matière est au-delà des attributs, au-delà des déterminations. Elle est la non-détermination. Autrement dit, elle est ce qui est radical. Elle est ce qui est fondamental. Elle est l'au-delà des déterminations. Si la matière est l'au-delà des déterminations, elle est bien substance. Puisque la substance est au-delà des déterminations, puisque la substance est ce qui est capable de recevoir toutes les catégories. Toutes les catégories sont les déterminations. Donc si la substance est capable de recevoir toutes les déterminations, nécessairement, elle a quelque chose de très semblable à la matière. Donc vous voyez, première raison pour montrer la similitude qui existe entre le point de vue de la matière et le point de vue de la substance. Deuxième raison. Et de plus, tout ce qui est attribué, les qualités secondes, par exemple les pures déterminations,
des actions, des puissances, des corps. Donc tout cela devait des longueurs, la largeur, sont des quantités et non des substances. Autrement dit, on rappelle toute la théorie des catégories. Les catégories qui sont les qualités, qui sont les actions, qui sont les puissances, qui sont les quantités, tout ça ne sont pas la substance. Ce sont des déterminations particulières. Les déterminations particulières, actions, puissance, qualité, quantité, ne sont pas la substance. Seule la substance est sujet premier, ainsi appartient tout à fait. Et tout ça, c'est tout à fait les catégories. On voit très bien, tout à fait les catégories. Si on regarde les catégories, on voit bien ce qui est indiqué dedans. Donc seule la substance est sujet premier, à qui appartient cette attribution. Et c'est aussi ce qu'Aristote a dit, l'être se divise en différents aspects, la substance est première et toutes les autres déterminations qui sont relatives à la substance. Or, si on supprime ces déterminations, il reste la matière. Vous saisissez la seule substance. Alors, si je supprime toutes les déterminations, si je supprime les déterminations qualité, quantité, action, passion, toutes les déterminations, qu'est-ce qui va rester? Il va rester une non-détermination. Cette non-détermination, c'est la substance et c'est la matière. Alors, à partir de là, 1029 AB, Aristote donne cette définition de la matière. J'appelle matière ce qui n'est pas par ce qui n'est par soi, ni existant déterminé, ni un tout, ni une quantité, ni aucune des catégories par lesquelles l'être est déterminé. Voilà ce que c'est que la matière. La matière, c'est la non-détermination. Si la matière est la non-détermination, et que la substance est au-delà de toutes les déterminations particulières, voyez bien la parenté qui existe en collectif. Voyons bien qu'il y a une parenté très foncière entre le point de vue de la matière et le point de vue de la substance. Donc j'appelle matière ce qui n'est par soi, qui n'est pas par soi, qui n'est pas catopène, ni existant déterminé, donc ni ainsi, ni une quantité, ni aucune des catégories par lesquelles l'être est déterminé. Car il y a ainsi, selon lequel chacune de ces catégories est affirmée, et dont l'être est différent de celui de chacune des catégories. Car toutes les catégories autres que la substance sont prédicats de la substance. Donc tout simplement, il rappelle que toutes les catégories sont relatives à la substance. Si toutes les catégories sont relatives à la substance n'est aucune de ces catégories, et donc la substance apparaît à ce moment-là comme semblable à la matière, puisque la matière est une non-détermination. Je crois que c'est très important de dire ça. Ça m'a l'air d'un chien comme raisonnement, mais c'est très très important. Ça prouve qu'un raisonnement par mode négatif, vous voyez bien, aboutit à identifier matière et substance. Parce que du côté négatif, nous avons la même affirmation. Nous avons la même affirmation que la substance est au-delà des déterminations et que la matière est au-delà des déterminations. Donc toutes les deux sont des non-déterminations. La substance est elle-même prédicat de la matière. Alors allons plus loin, parce que là il y a une dernière affirmation, c'est que la substance elle-même, si toutes les déterminations sont liées à la substance est elle-même prédicat de la matière. Autrement dit, la matière est en fait quelque chose de plus radical que la substance. Ça fait qu'on comprend un certain type. Et que la matière va être quelque chose de plus radical, on pourra attribuer la substance à la matière. Pourquoi peut-on attribuer la substance à la matière? Les catégories qui nous montrent que la substance est quand même le premier genre. Si la substance est le premier genre, on peut donc attribuer la substance à la matière. 1029 à 24, de sorte que le sujet dernier, eschaton, selon lui-même, donc ni quelque chose de particulier, ni quantité, ni autre catégorie, ni les négations, car celle-ci ne lui appartient que par accident, donc il suit que la matière est une. Donc le sujet dernier, c'est ce qui justement est au-delà de toutes les déterminations. C'est celui qui implique une non-détermination. Non seulement c'est ce qui implique une non-détermination, mais c'est ce qui est au-delà aussi de la négation. Parce que la négation va impliquer encore une possibilité d'être relative à la détermination. Donc il n'est ni les négations, car celle-ci
ne lui appartiennent que par accident. Donc, ce qui aura de plus radical, foncièrement, ce sera la matière. La matière est donc Ousia. Ousia, Einatel, Oulen. Donc, voici bien ce double raisonnement. Raisonnement par notre impossibilité, raisonnement plus important, de montrer que de fait, la matière comme la substance sont au-delà de toutes les déterminations. Donc, c'est ce qui supporte toutes les déterminations. Et non seulement c'est ce qui est au-delà de toutes les déterminations, mais la matière est encore ce auquel on peut attribuer le point de vue de la substance. Et non seulement on peut dire ça, mais le sujet dernier, escatole, le sujet radical et fondamental, c'est ce qui est au-delà de la matière. Et donc, c'est vraiment la matière. Donc, la matière est bien ce plus radical. Si vous définissez la substance comme celle le plus radical, le plus fondamental, vous direz que la matière est substance. Alors, c'est ici, à partir de ce moment-là, ou très rapidement, mais ceci est impossible. Et voyez, pourquoi il va le dire, hein, c'est important. Ça paraît être comme cela. On voit très bien comment on peut identifier substance et matière. Si je prends uniquement l'aspect radical et fondamental, si je suis dans un raisonnement uniquement saisi d'un point de vue radical et fondamental, j'identifierai toujours substance et matière. Mais ceci est impossible, car à la substance, il semble appartenir avant tout d'être séparé et d'être un taux d'effet. Alors, ceci présuppose l'intuition première que la substance est un taux d'ici, c'est-à-dire qu'elle est dans l'ordre de l'être un taux d'ici. C'est-à-dire quelque chose d'absolument déterminé. Un taux d'ici, c'est quelque chose d'absolument déterminé. La substance est souverainement déterminée. Elle est au-delà des déterminations particulières, mais elle est souverainement déterminée. Elle est déterminée par elle-même. Elle n'est pas déterminée par autre chose. Si donc la substance est un taux d'ici, et qu'elle est capable d'être quelque chose de séparé, elle ne peut pas être la matière. Donc, vous voyez, tout le raisonnement d'Aristote présuppose de nous montrer la différence de ce qui est premier dans l'ordre de l'être et ce qui est premier dans l'ordre logique ou dans l'ordre du devenir. Tout ce raisonnement qu'il nous donne n'a de sens que si nous voyons la différence qui existe entre le premier dans l'ordre de l'être. Le premier dans l'ordre de l'être est un taux d'ici, c'est-à-dire quelque chose d'absolument déterminé, ou quelque chose qui est capable d'être séparé, c'est-à-dire qui n'est pas relatif à autre chose, dans l'ordre de la détermination. La substance est première dans l'ordre de l'être. Tandis que le sujet est premier dans l'ordre logique, c'est-à-dire dans l'ordre des attributions, c'est en effet quelque chose qui est au-delà de toutes les déterminations. Je peux tout attribuer à son sujet logique. Ou dans l'ordre du devenir. Dans l'ordre du devenir, le sujet est premier aussi. Donc le sujet a deux priorités, la priorité logique et la priorité du devenir. Mais la priorité dans l'ordre du devenir et dans l'ordre logique aboutit à dire ce qui est premier, c'est la matière. En effet, ce qui est plus fondamental dans l'ordre du devenir, c'est la matière. Et ce qui est plus fondamental dans l'ordre logique, c'est la non-détermination. Donc, l'assistance, le qui est-il assistance, ne peut pas être le sujet, parce que le qui est-il de l'assistance, c'est le premier dans l'ordre de l'être, et non pas le premier dans l'ordre logique ou dans l'ordre du devenir. Oui, c'est très très rapide, c'est comme toujours. Les moments importants dans Aristote sont toujours extrêmement rapides. Le tournant est fait rapidement, sans nous donner d'explication. Les explications avant sont très longues, mais au fond, le tournant tourne brise, on part dans un autre sens. Si vous regardez le point de vue logique, si vous regardez le point de vue du devenir, et que vous ne regardez que cela, vous direz nécessairement l'assistance est matière. Alors, voyez toutes les conséquences, hein, c'est intéressant parce qu'il faut essayer de voir la pensée d'Aristote derrière. Toutes les conséquences qui sont là. Si donc on identifie être et devenir, ou si on ramène le devenir à l'être, nécessairement l'oublia sera matière. Si on ramène le métaphysique à l'être logique, nécessairement l'oublia sera matière. C'est pour ça qu'on a tellement de peine à comprendre Aristote. on ne comprend pas assez la distinction chez lui capitale entre le point de vue du devenir et le point de vue de l'être, et entre le point de vue de la logique et le point de vue métaphysique. Parce qu'on faut qu'on reste dans le nominalisme. Dans le nominalisme, la logique et le point de vue métaphysique s'identifient. Alors à ce point de vue-là, nécessairement, il y a une identification entre le point de vue de l'ousia et le point de vue de la lumière. Oui, je crois que c'est ça qu'il veut nous dire. Encore une fois, c'est assez raide. Parce qu'il y a un moment très précis, c'est impossible. Pourquoi deux affirmations, la substance, c'est l'être séparé, la substance, c'est l'autre. Ça, il n'en a pas d'explication. Ça présuppose, justement, ce qu'il a dit au chapitre premier, que l'ousia, c'est l'être pris en premier. Alors, une fois qu'on a dit cela, il faut regarder le point de vue des autres aspects. Par le fait même, l'aïdos et le composé des deux sembleraient plus substance que la matière. Bon. La conséquence, on a vu trois sujets possibles, souvenez, c'est la division première, matière, aïdos et composé. Donc nous voyons que nous ne pouvons pas identifier substance et matière, dire que la substance est la matière. Bien qu'il y ait une parenté entre les deux. Nous sommes en face de premier dans des ordres différents. Puisque de fait le sujet c'est Eidos et composé, nous avons supprimé le point de vue de la matière, nous allons nous retarder maintenant le point de vue Eidos et le point de vue du composé. Ce qui montre bien l'unité du chapitre. Et qui montre bien que la première division se retrouve au terme. Donc cette première division n'est pas du tout une division comme si on interprétait directement ce sens sujet. Non. Il y a une première division qui est importante, c'est que le sujet se dit de cette triple manière. Donc une fois qu'on a vu que la substance ne pouvait pas s'expliquer par le point de vue de la matière, et que cependant il y a une parenté entre le point de vue de la substance et le point de vue du sujet, nous n'avons pas nié cela. Il y a une parenté entre la substance et le point de vue du sujet. Alors il faut essayer de regarder le point de vue de l'aïdos et le point de vue du composé. Or, par le fait même, l'aïdos et le composé des deux sembleraient plus substance que la matière. Or, la substance composée, qui provient de la forme et de la matière, c'est quelque chose de second, que c'est un composé. Donc, elle n'est pas ce qu'est la substance. C'est première. J'explique. Aristote ne dit pas ça explicitement. Mais je crois que c'est quand même indiqué dans ce livre. Le point de vue du composé, tout composé est quelque chose de second. Bien évident. Tout composé implique des parties. Or, la forme est antérieure au composé, puisqu'elle est antérieure à la matière. Si la forme est antérieure au composé, nous ne pouvons pas identifier substance et composé. Donc, nous biffons ici substance, composé. Donc, il ne reste plus qu'un seul problème, le problème de la substance et de l'aïdos. Donc, la substance est aïdos. Elle est forme. C'est là la plus grande difficulté. N'oubliez pas, parce que Juxon dit que pour Aristote, substance égale forme. Donc c'est important. C'est pas, et Aristote, il dit que c'est la plus grande difficulté. Donc il n'identifie pas immédiatement où il y a une forme. Il nous dit aussi, regardez le point de vue de la relation qui existe entre Aristote et substance, c'est pour vous la plus grande difficulté. Et on comprend très bien pourquoi il dit ça. C'est parce que Platon a identifié où il y a. Si Platon a identifié Ousia et Aïdos, on comprend très bien qu'Aristote, en face de la pensée de Platon, se trouve devant la plus grande difficulté. Est-ce que la substance est vraiment Aïdos? Si est-il la substance, qu'est-ce que c'est la substance? Est-ce qu'on peut l'identifier avec Aïdos? Alors, à cause de la difficulté, c'est toujours comme ça. Chaque fois qu'on est en face de la difficulté, on revient à un procédé de méthode. Ça veut dire que c'est toujours une manière de se reposer un instant. N'est-ce pas? C'est toujours comme ça qu'on fait. Donc, attitude réflexive, comme on est devant une très grosse difficulté, voir si la substance peut s'identifier, mais si est-ce que la substance peut s'identifier avec l'autre, on va se reposer un instant. À cause de la difficulté, on va regarder les substances qu'on connaît le mieux, les substances sensibles. Donc, vous voyez là, très nettement, une orientation. On revient à un point de départ. Qu'est-ce qu'on connaît le mieux sont les substances sensibles. Et donc, on va regarder les substances sensibles, on va les considérer parmi les substances sensibles, si on peut vraiment dire que l'aïdos, c'est la substance. Et alors, réflexion méthodologique, que nous a mis Aristote, et à mettre en parallèle, du reste, l'édition de Mais toute la main entre les deux, entre ce qu'il est mis ici, donc 1029b3 et suivant, jusqu'au chapitre 4, avec le premier livre de physique, le premier livre de physique, 84a et 7. Je vous lis le passage de physique, si je vous lirai le passage de la littérature, et vous verrez pas. Or, la méthode, la marche naturelle, c'est d'aller les choses les plus connaissables pour nous et les plus claires pour nous à celles qui sont plus claires en soi et plus connaissables. Car ce ne sont pas les mêmes choses qui sont connaissables pour nous et qui sont connaissables de façon absolue. C'est pourquoi il faut procéder ainsi, partir des choses moins claires en soi, plus claires pour nous, pour aller vers les choses plus claires en soi et plus connaissables. Or, ce qui pour nous est d'abord manifeste et clair, ce sont les ensembles les plus mêlés. Le tout global, comme nous dit aujourd'hui, c'est au fond les aspects plus composés, plus complexes. Donc ce sont les ensembles les plus mêlés. C'est seulement ensuite que de cette indistinction, les éléments et les principes se dégagent et se font connaître par voie d'analyse. Il faut analyser un tout composé. La première chose que nous connaissons, c'est un double bas. Puis nous allons vers le point de vue des éléments. C'est pourquoi il faut aller des choses générales aux particulières. Car le tout est plus connaissable selon la sensation. Et le général est une force de tout. Le général, c'est l'universel, plutôt qu'à tout. Donc, l'universel est d'une certaine manière un tout. Il en fait une rareté qui constitue comme ses parties. Il en va ainsi, en quelque manière, pour les noms relativement à la définition. Bien sûr. Eh bien, je dis maintenant le passage qui nous intéresse ici. Il faut passer du plus connaissable, du moins connaissable en soi, vers le plus connaissable. Parallèlement pour l'action. C'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, il y a un parallélisme. On voit des deux côtés la même chose. Rappel, procédé de méthode. Comme ça ne va pas de quelque chose de très difficile, revenons vers quelque chose que nous connaissons mieux. Très difficile de voir exactement les liens entre l'outil et l'exode. C'est-à-dire, c'est pas commode. De voir les liens entre l'outil et l'exode. Alors, parce que c'est pas commode, il faut revenir à des choses plus simples. Les choses plus simples, ce sont les substances sensibles. Et Aristote dit, faut toujours passer du moins connaissable au plus connaissable. De même pour l'action. On parle de chaque bien particulier. Vous voyez, ceci, c'est propre à la métaphysique. L'éthique a été composée entre deux. Et là, il y a un parallélisme entre le principe de la recherche spéculative et la recherche pratique. De même pour les actions. On parle de chaque bien particulier pour que le bien universel, ou là, le bien commun, devienne le bien chacun. Et nous ne pouvons pas finir tout de suite le bien commun. Le bien commun est plutôt difficile à saisir. Le bien au lot, le bien dans sa totalité, le bien commun de la communauté. Ce ne faut pas saisir tout de suite. Alors on parle de chaque bien particulier pour que le bien pris dans sa totalité devienne le bien de chacun. Il faut découvrir à partir du bien particulier ce que représente le bien commun. Et une fois qu'on a découvert à partir du bien particulier le bien commun, on peut découvrir que ce bien commun est le bien de chacun. On doit partir de même. De ce qu'on connaît le mieux, soi-même, pour faire ce qui est connaissable, pour atteindre ce qui est connaissable en soi. Donc, le connaissable pour soi-même. On parle de ce qui est le plus proche de nous, en vue du connaissable pris objectivement. Les connaissances individuelles, les connaissances premières, sont souvent des connaissances pauvres, qui ne contiennent que peu ou point de la réalité. Tout autre. Donc ça contient très peu de la réalité. Pourtant, c'est en partant de ces connaissances rudimentaires qu'il faut arriver à des connaissances universelles, en empruntant la démarche que nous venons d'entendre. Donc vous voyez qu'il y a le même parallélisme entre les deux, avec une précision plus grande dans le point de vue de la philosophie première dans la métaphysique, parce qu'il fait d'une part l'analogie avec l'action, et d'autre part, il montre les effets propres de ces connaissances. Sont les connaissances premières, Les connaissances rudimentaires qui sont les plus proches de nous sont des gens plus pauvres. Au point de vue du contenu de l'être, tout Paul Top. Au point de vue de l'être, ce sont des connaissances qui sont nécessairement assez difficiles. Ce sont des connaissances qui restent sensibles. Alors, parce que ce sont des connaissances sensibles, elles n'ont pas la valeur de ce que représente les principes.
Alors, nous entrerons la fois prochaine dans le chapitre 4, avec une
11e cours.
Dans le problème, si vous voulez, qui reste un problème très difficile. Je crois que ceux qui veulent vraiment entrer dans la philosophie d'Aristote doivent se faire les dents sur ce chapitre 4. C'est très très important. C'est là où on peut éprouver jusqu'où va de fait l'hierarchie philosophe, parce que c'est vraiment devant des difficultés comme le chapitre 4, on est obligé de reprendre le texte de multiples manières, de s'interroger pour le comprendre. Ceci, c'est pour vous dire que le chapitre 4 demande d'être lu. Vous l'avez prévu la dernière fois. Combien parmi vous ont lu ce chapitre 4? Lève la main. Il y en a encore quand même pas mal. Mais vous voyez, mais n'ayant pas lu, je serais tenté de dire que tous ceux qui n'ont pas lu seraient mieux sortis. Parce que, je vous avoue, c'est très vrai, ceux qui ont lu le chapitre 4 peuvent être là de mon avis. Je vous avoue que c'est impossible de présenter le chapitre 4 à quelqu'un qui n'a pas lu. Ah bon, c'est quelqu'un qui a lu. Or, le livre Veta représente quand même quelque chose d'important au point de vue réflexion philosophique. Et quand on arrive au chapitre 4, on arrive à quelque chose de particulièrement difficile. Alors, ayez quand même le souci, je vous ai déjà dit, les cours, c'est quand même une coopération. Alors, de temps en temps, on a quand même l'impression qu'il y a devant soi des gens qui sont là uniquement parce qu'ils doivent l'être. Alors, j'ai toujours envie de dire que ces gens qui doivent être là, j'ai envie de dire, c'est pas la peine qu'ils soient là. Parce que ça alourdit énormément. Alors, je crois qu'il faut quand même qu'il y ait un souci de coopération. Vous pouvez poser toutes vos questions. C'est très bien que dans le cours, c'est pas commode parce qu'on est trop nombreux, mais vous pouvez les poser par écrit. Et vous pouvez vous le poser au colloque. Alors je vous rappelle ça parce que c'est difficile, n'est-ce pas ? Et que c'est important. Il y a vraiment là une réflexion philosophique importante à faire si on veut, comme soi, entrer dans la pensée d'Aristote. Si on ne veut pas entrer dans la pensée d'Aristote, évidemment, ce n'a pas d'importance. Alors, essayons d'entrer dans ce chapitre 4. Et je vous demande d'être attentif parce que c'est vrai. Le chapitre 4, donc je ne répéterai pas ce qu'a été dit au séminaire, ce chapitre 4 se situe de cette manière. Donc, après le chapitre 3, Aristote a montré comment on ne pouvait pas identifier le point de vue de l'ousia et le point de vue du sujet. Et que cependant, parce qu'on ne peut pas identifier les deux, si on identifie les deux, on aboutirait à identifier l'ousia et la matière. Et donc, pour regarder quels sont les liens qui existent entre l'ousia et l'exode, et la force. Et qu'Aristote a réfléchi juste avant ce chapitre 4 pour dire que le problème était particulièrement difficile, d'où réflexion méthodologique, pour dire, quand il s'agit justement de saisir l'ousia par rapport à l'eidos, c'est Platon qui est en face, ne l'oublions pas. Il y a Platon qui est en face pour lui, et que Platon a identifié ousia et eidos, donc a identifié la substance et la forme. Alors, il nous dit qu'il faut nécessairement regarder l'eidos dans les substances sensibles. Dans les substances matérielles. Et donc là, nous devons essayer de comprendre ce que c'est ça que nous comprenons entre les deux. Et il nous donne une seconde précision qu'il faut regarder ceci de façon logique. Donc voyez bien, tout est toujours oratoire de l'Aristote pour nous faire comprendre qu'il va entraîner quelque chose de difficile. Donc nous avons le problème ousia et c'est au fond ça qui commence tout, c'est la grande recherche. Après avoir montré que ça ne pouvait pas être le point de vue du sujet, c'est le rapport qui existe entre les deux. Le qui est-il de l'ousia, le qui est-il de... Non, le qui est-il de l'ousia, est-ce que c'est l'exode? Alors, première précaution, nous devons regarder les substances matérielles, c'est celle-là que nous connaissons le mieux, donc regarder la forme dans les réalités qui sont auprès de nous. Ceci est présupposé connu, étant donné tous les forts d'Aristote dans la philosophie de nature. Tous les forts d'Aristote dans la philosophie de nature, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est que la forme opposée à la matière, ou le couple matière et forme. Or, ici, on doit dépasser le point de vue couple matière et forme, c'est pour ça que je ne dis pas morcer, mais qu'il y a une autre. On doit dépasser le point de vue couple matière et forme, parce que le couple matière et forme ne pourrait pas nous permettre de découvrir ce que c'est que l'ousia. Pourquoi? Parce que dès que vous êtes en face
d'une dualité matière et forme, vous êtes en face de quelque chose qui n'est plus premier. Or, il s'agit de chercher ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Enfin, n'oublions pas la grande intuition du début du livre d'État. D'où vient ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Alors, Aristote dit, nous allons regarder d'abord dans l'existence matérielle, nous allons voir par exemple. Deuxièmement, nous prenons le point de vue de l'autre. Nous avons déjà parlé au séminaire, en un mot seulement, pour ceux qui ne le savent pas, l'opposé d'Aristote est très très difficile à traduire. Nous ne pouvons pas dire logique dans le sens actuel. Parce que si nous disons logique dans le sens actuel, nous comprendrons absolument plus la recherche d'Aristote, qui se situe non pas au niveau purement fonction, qui se situe de fait à un niveau de signification. Et donc, ça va plus loin du point de vue proprement logique, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Alors, évidemment, quand nous regardons les secondes analytiques que nous allons regarder dans un instant, logicose, alors peut regarder les secondes analytiques. Parce que les secondes analytiques impliquent au point de vue de la signification et n'impliquent pas seulement le problème de la fonction formelle. Mais, d'une façon classique, on dira que les secondes analytiques impliquent la logique matérielle. Et dans la logique matérielle, ça veut dire le problème de la signification. C'est le problème de la signification qui est impliqué dedans. Alors, dans le sens aristotélicien, on peut dire que l'homme regarde au point de vue logique. Mais en comprenant bien que ce point de vue logique n'est pas simplement un aspect purement formel, de fonction formelle. C'est quelque chose de plus. De sorte que nous pourrions dire, si vous voulez, un aspect critique, un aspect d'intelligibilité. Je crois que l'homme regarde l'aspect d'intelligibilité. Parce que pour Aristote, l'homme est employé différemment, dans des sens différents. De temps en temps, on pourra traduire l'homme dialectiquement, mais ici, il n'est sûrement pas dialectiquement. Parce que le souci d'Aristote, c'est justement d'arriver à une précision extrêmement profonde, très rapide.